En RCA, les autorités préconisent le report des législatives et présidentielles prévues dimanche 27 décembre au mercredi 30. L'autorité nationale des élections, l'ANE, reconnaît ouvertement n'être pas prêt pour ces scrutins. Le reportage de notre envoyé spécial à Bangui, Catalina Hoge, présenté par Lionel Gaïma.
1 700 000 électeurs se sont inscrits pour voter. Les bulletins de vote qui sont arrivés cette semaine doivent être distribués à travers le pays. Une tâche monumentale en République centrafricaine où les déplacements restent difficiles. Moruba Sakanga est un agent de service de la logistique de l'ANE.
C'est beaucoup plus le temps qui nous manque parce que on a été obligé de comprimer les dates. Donc le temps nous manque pour réaliser les activités de manière méthodique.
Autre souci, la situation sécuritaire qui demeure préoccupante. Les groupes armés ayant renversé le président François Bozizé en mars 2013 sont toujours présents à Bangui, la capitale, en particulier dans le quartier majoritairement musulman du PK5. Gilles Silla est le chef de service de sécurité de l'Agence nationale des élections.
Du côté du gouvernement, nous sommes limités. Alors notre sollicitude, c'est que la MINUSCA ou la communauté internationale mettent des moyens de mobilité à la disposition des forces de sécurité intérieure.
Le reportage de notre envoyé spécial en RCA, Catalina Hoge, présenté par Lionel Gaïma. Avant que le report des élections au 30 décembre soit officiel, il faut d'abord que cette proposition soit approuvée par la Cour constitutionnelle, car la législation centrafricaine prévoit les scrutins le dimanche. Et puis, la proposition doit ensuite être signée par la présidente de la transition dans un décret. Voilà. Passons maintenant au Burundi. La nouvelle rébellion proclamée dans ce pays n'a aucun avenir. Telle est la réaction de la présidence burundaise ce jeudi à l'annonce de la création du mouvement rebelle Forebu, la force républicaine du Burundi. Un ancien officier supérieur de l'armée, le lieutenant-colonel Edouard Nshimirimana, a révélé hier que la Forebu rassemble les principaux groupes armés antigouvernementaux opérant dans le pays. Un embryon de rébellion harcelait depuis plusieurs mois les forces de sécurité à Bujumbura et en province, mais sa création n'avait jamais été officialisée et elle n'avait pas de nom.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, la ratification par le Parlement de la loi sur la patrie portant sur le respect de la Convention de New York sur les apatrides de 1954 fait couler beaucoup d'encre. Plusieurs médias laissent entendre que la loi a été adoptée pour permettre l'octroi de la nationalité malienne à certains chefs rebelles du nord du pays. Les explications de Maître Zoumananchi Doumbia, président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale malienne, au micro de Modibo Dembélé.
La définition de la patrie, c'est quelqu'un qui n'a aucun lien juridique avec un État. C'est une convention qui date d'après la Seconde Guerre mondiale. Et le Mali n'avait pas encore ratifié ça. Donc, pour essayer en tout cas de réduire le taux d'apatridie, l'Assemblée nationale du Mali a ratifié la convention pour permettre à l'État du Mali d'adhérer en tout cas à la convention sur l'apatridie.
Pourtant, certaines personnes prêtent au gouvernement malien que le vote de cette loi serait surtout pour essayer de couvrir certains membres de la rébellion. Est-ce vrai?
L'apatridie n'a rien à voir avec la rébellion qui se passe au nord du pays, parce que l'apatridie signifie ceux-là qui n'ont aucune nationalité, en tout cas qui ont des difficultés à prouver leur nationalité par rapport à un État bien déterminé. Alors que la guerre ou la rébellion qui se passe au nord, ceux qui le font ont très bien une nationalité, donc à ne pas confondre.
Maître Zoumanan Chinoumbia, député à l'Assemblée nationale du Mali. Et pour terminer, le groupe État islamique a perdu du terrain en Syrie et en Irak, mais il reste une menace majeure. Mustapha Tossa, journaliste basé en France.
On s'attend à ce que la communauté internationale soit réellement sérieuse dans la lutte contre ce phénomène-là. Alors maintenant, toute la question est de savoir est-ce que le fait de se contenter uniquement de bombarder de manière aérienne les bastions de l'État islamique en Syrie et en Irak, est-ce que c'est la seule solution ? Ou bien il faut envisager d'autres pistes, y compris celle de déployer des forces terrestres pour aller combattre sur le terrain militairement la direction de Daesh. Alors on parle aussi de monter une coalition locale, sous-traiter cette guerre à des forces arabes, kurdes et pourquoi pas turques demain. Donc toutes les hypothèses sont là, sauf qu'il y a une seule certitude, c'est que l'action du bombardement aérien n'a pas suffi à éradiquer Daesh. Bien au contraire, l'État islamique en a profité pour s'épanouir et pour augmenter son territoire.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.